Chers auditeurs, chères auditrices, nous continuons cette deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 9 et j'aimerais vous parler sur cette étude importante des 6 mystères, surtout du Nouveau Testament. Malheureusement, c'est difficile parfois de fracturer certaines études. J'essaye de la faire d'un coup, mais le CD peut-être n'a pas assez de place pour cela, et dans ce cas, je devrais réétudier toute l'étude un peu différemment pour la faire plus courte. Premièrement, nous avons donc le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est dit, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons également tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 28. Quand nous acceptons Jésus comme sauveur au travers de la Sainte Parole, le Saint-Esprit pénètre en nous. Cette parole qui était lettre morte devient vivante et nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. Ce mystère, Christ en nous, n'était pas connu dans les temps anciens. Je pense à Jérémie, à David, à Moïse. Ils n'ont pas compris ce qui nous est maintenant révélé. C'est en effet quelque chose d'extraordinaire que Dieu puisse s'unir à la race humaine en mettant dans leur cœur le Saint-Esprit afin que nous devenions des enfants de Dieu. C'est là tout le plan de Dieu, le Fils de Dieu, est devenu fils de l'homme. Et cela afin que nous, les fils des hommes, nous devenions des fils de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut maintenant mettre au point certaines idées qui circulent dans le monde. Il y a des gens qui croient que l'on devient chrétien quand tout petit bébé, on reçoit par quelques gouttes d'eau ce que certains appellent le baptême. Ce n'est pas là ce que enseigne la sainte parole de Dieu, vous pouvez vérifier. Il y en a d'autres qui y croient, eh bien oui, ils croient sincèrement, on peut croire sincèrement à des champignons et mourir. Donc, il y en a d'autres qui croient que l'on est un enfant de Dieu par droit de création. Et par conséquent, nous sommes tous des enfants de Dieu. Eh bien, voyons ça un peu de plus près. Il y a une pierre de touche pour reconnaître ceux qui sont nés de nouveau. La voici. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pouvez-vous mettre la main sur ce verset et dire « Oui, je le crois ». Quand on passe par le véritable baptême d'eau, le baptême par immersion, on donne en quelque sorte une signature sur un acte important que nous avons accompli. Nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec lui pour une vie totalement nouvelle. Voilà ce qui compte. Alors, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais maintenant vous montrer la différence qu'il y a entre un homme religieux et un vrai chrétien. L'apôtre Pierre nous la montre dans un passage de son épître. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant. Et donc, ça c'est donc quelque chose, en fuyant la corruption, vous l'avez compris, qui existe dans ce monde. Et cela existe par toutes sortes de convoitises. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Quelle est donc la différence? Eh bien, ça c'est une question de nature. Le chrétien possède deux natures. L'homme religieux, lui, c'est pas la même chose. Je répète, le chrétien possède deux natures, mais l'homme religieux n'en a qu'une de nature. L'homme religieux n'a que la nature humaine, charnelle, terrestre. Le chrétien possède, lui, une seconde nature, une nature divine. C'est là toute la différence et elle est immense. Je vous pose le problème un peu différemment, sous la forme d'une énigme. Né une fois pour mourir deux fois. Ça, c'est l'homme religieux. Né deux fois pour mourir une fois et peut-être pas du tout. Ça, c'est le chrétien. Nous sommes devenus participants à la nature divine. Nous devons vaincre tout ce qui vient de la vieille nature. L'Esprit de Christ habite en nous. Mais il y a une expérience à faire, c'est celle de Galates, chapitre 2, verset 20. Là, il est dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le vrai chrétien s'associe à Jésus dans sa mort sur la croix. De même que Jésus est mort au monde, ainsi le vrai chrétien, mort avec Jésus sur la croix, est également mort au monde. C'est à la croix qu'il reçoit une vie totalement nouvelle. Sa vieille vie l'a quittée. C'est là l'expérience de l'apôtre Paul qui peut affirmer « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Nous avons, deuxièmement, le mystère de la volonté de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10, nous faisons connaître le mystère de la volonté de Dieu selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis et de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Il est donc question du mystère de la volonté de Dieu et de son dessein à l'égard de la terre. Ce mystère sera entièrement révélé quand les temps seront accomplis. En ce moment, nous comptons les heures, les jours, les mois, les années, car nous n'avons pas saisi la pensée de l'éternité. Mais, quand les temps seront accomplis, il ne sera question que de l'éternité. Le plan de Dieu et de réunir tout ce qui a été à lui au travers des âges, avec tout ce qu'il y a dans le ciel et de le donner à Jésus. Dieu veut que Jésus soit le premier et le dernier. En ce qui concerne la terre, tout a été préparé par le Seigneur. Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes et pour les choses de la terre. Il nous a créés pour son Fils bien-aimé. Nous ne sommes pas destinés à la terre, mais au ciel. Il y a beaucoup de choses concernant le ciel que nous ignorons. Nous avons une très petite compréhension des chérubins, des séraphins et des anges, des archanges. Il y a bien d'autres choses que nous ne connaissons absolument pas. Mais quand nous serons tous réunis, nous profiterons avec elle de notre héritage. Tout sera réuni en Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël connaissait très peu de choses de Dieu et ignorait tout de Jésus. Tandis que dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné une beaucoup plus grande révélation. Voici ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28. Il est dit qu'ensuite viendra la fin quand il, Jésus-Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voyons cela de plus près. De quelle fin est-il question? C'est la fin de notre terre. Jésus-Christ remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit toute autorité, toute domination et toute puissance. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que dans la nuit des temps, il y a eu une terrible rébellion dirigée par Satan. À ce moment, son nom était Lucifer, le porte-lumière, et il était placé dans la position la plus élevée. Cette révolte provoqua la chute de Satan et de ses anges qui l'avaient suivi. C'est ce que les Saintes Écritures appellent les dominations et les puissances. Quand la Sainte Parole de Dieu parle des esprits méchants dans les lieux célestes, il faut bien se dire que ces puissances mauvaises sont assujetties à Satan, car c'est lui qui les dirige selon sa volonté. Mais je dois ajouter qu'il y a sur la terre des esprits que nous appelons les démons, qui sont une conséquence de cette rébellion de Satan. Or, Jésus doit vraiment détruire les anges qui ont suivi Satan, et même Satan lui-même. Il va nettoyer l'univers tout entier. Il mettra tout sous ses pieds. Déjà, il régnera pendant le millénium. On n'en parle pas beaucoup, mais il y aura une dernière révolte et ce sera le jugement dernier. C'est donc là que tous, petits et grands, comparaîtront devant le grand juge et ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie seront définitivement perdus. Hélas, il jugera aussi les démons. Souvenez-vous de cette parole qu'il lui adressait lors de la délivrance du démoniaque de Gadara. Là, il est dit dans Saint Matthieu chapitre 8, verset 29, le démon a dit, es-tu venu pour nous tourmenter avant même le temps? Version Darby. Saint Matthieu chapitre 8, verset 29. Es-tu venu pour nous tourmenter déjà maintenant avant le temps prévu? Donc, ils seront jugés par Jésus-Christ. Tout lui sera entièrement soumis. Si donc il doit régner sur l'univers, ne devrait-il pas régner dans nos vies, à nous, maintenant? Il veut être notre souverain maître, il veut être le roi. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, nous recevons au travers de lui le pardon de nos péchés. Nous nous donnons à lui et nous entrons dans son église. Mais connaître Jésus-Christ seulement comme sauveur n'est pas totalement suffisant. Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Nous le connaissons non seulement comme sauveur quand il nous purifie de nos péchés, mais aussi nous devons le connaître comme Seigneur et comme Christ, c'est-à-dire celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Après l'expérience du salut, les apôtres ont franchi une autre étape. Ils ont connu Jésus-Christ comme Seigneur. Parfois, nous avons besoin d'entendre les avertissements de Jésus. Quand il dit par exemple dans Saint-Luc, chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur, et pourtant, vous ne faites pas ce que je dis ?» Il est écrit dans Job, chapitre 23, verset 12. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Lorsqu'on arrive à faire plier sa volonté à celle du Seigneur, il devient le roi et le maître. Il faut donc qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses en nous, sur la terre, dans les airs et dans l'univers. Je dis bien dans les airs, car voyez-vous, c'est là actuellement que Satan habite. Il est le prince de la puissance de l'air. Il se trouve dans cet endroit de nombreuses forces, des forces sataniques, des princes de démons. Il faut que tout cela soit nettoyé. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, « Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Quand pourrons-nous, je vous le demande, quand pourrons-nous considérer que pour nous, la mort est détruite ? Ce sera quand Jésus-Christ reviendra et il nous amènera dans la gloire. La mort sera alors vaincue. Mais pour ceux qui seront sur la terre et qui traverseront le millénium, la mort sera-t-elle vraiment vaincue? Non, non, non. Mais ils auront une grande longévité. C'est pas moi qui le dis. Il faut relire les choses. Ésaïe 65, verset 20, nous dit par exemple, il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera un jeune homme. Mais sur la nouvelle terre, la mort n'existera plus du tout. Satan est le prince de la mort et Jésus l'a vaincu. Voyez ce qui est affirmé dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Là, il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse lui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Nous arrivons au verset 28 de Hébreux chapitre 2, Et là, il est dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Au travers de Jésus-Christ, la race humaine, l'univers tout entier, vont revenir à l'état antérieur de perfection, celui qui existait avant que Satan ne se rebelle. Dieu nous a appelés à cet état de perfection et tous, nous serons donc là libérés, car tous ses ennemis seront vaincus. Nous ne serons plus donc chicanés, oppressés et tout ce qui va avec cela dans une misère épouvantable spirituellement. Troisièmement, nous avons le mystère de Christ. Le mystère de Christ, la première partie du mystère de Christ. Car il y a deux parties. Il est dit dans l'Évangélium de Saint Jean, chapitre 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Saint Jean, chapitre 3, verset 13. C'est Jésus-Christ qui parle ainsi, et lorsqu'il affirme cela, où était-il, je vous le demande? Il était pourtant sur la terre. Comment pouvait-il être en même temps dans le ciel et sur la terre? Comment concevoir ces paroles? Eh bien, Jésus-Christ avait affirmé que moi et le Père, nous sommes un. Saint Jean, chapitre 17, verset 22. Étant un avec le Père étant dans le ciel et lui étant sur la terre, Jésus voulait tout simplement dire, moi, je suis sur la terre, d'accord, mais tout en étant dans le ciel, c'est-à-dire dans la présence de mon Père. Car tout en étant ici-bas, Jésus-Christ avait une communion parfaite avec son Père dans le ciel. Le mystère caché dans les siècles passés révèle par le Seigneur Jésus, ou plutôt révélé par le Seigneur Jésus, c'est que Dieu lui-même allait venir sur la terre prendre place au milieu de la race humaine, et cela sous une forme humaine. Voilà le mystère. Ce mystère caché dans l'Ancien Testament fut révélé par la venue de Jésus-Christ. Or, dans l'épître de saint Paul aux Colossiens, voici un autre mystère. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens, chapitre 1, verset 24 à 26. Il y a donc là un second mystère. Non seulement Dieu allait envoyer son Fils sur la terre, s'incarner dans un corps humain, mais il allait naître dans le cœur des croyants. L'Esprit de Christ allait donc faire de ses croyants les fils de Dieu. Nous pouvons appeler cela, en quelque sorte, le mystère de la nouvelle naissance. Que Dieu ait voulu se joindre à la race humaine, c'est déjà une très grande grâce, mais qu'il ait voulu que la race humaine se joigne à lui au travers de son Fils, c'est un véritable prodige, c'est une espérance glorieuse, car nous, qui ne sommes que des humains, nous pouvons devenir des enfants de Dieu, et cela pour l'éternité. C'est là la pensée de Dieu à notre égard. Nous savons que la gloire nous attend. Évidemment, je m'adresse à ceux qui qui ont reçu Christ dans leur cœur, évidemment. Si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance, vous ne pouvez avoir cette espérance. Et c'est pourquoi je vous supplie d'accepter Christ dès maintenant. Il vous tend la main. Pourquoi ne pas l'accepter ? Pour conclure, l'apôtre affirme, c'est lui que nous annonçons, et je voudrais vous faire remarquer que dans nos études, nous ne parlons que de Jésus-Christ, car le point central de nos messages, c'est bel et bien Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais vous parler de l'expérience d'un homme religieux auquel Jésus montra comment on pouvait le recevoir dans son cœur. C'était un homme très en vue dans Jérusalem, c'était pas n'importe qui. Il appartenait à la secte des pharisiens. Souvent, nous critiquons ces pharisiens parce que beaucoup étaient formalistes et avares. Mais nous devons reconnaître que leur doctrine était quand même meilleure que celle des autres et ils avaient une rigueur morale. Ah oui, une rigueur morale que beaucoup de chrétiens n'ont pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Saint Matthieu, chapitre 5, verset 20. Donc, cet homme Nicodème faisait partie de ces gens-là. C'était un chef du peuple. Il est venu auprès de Jésus de nuit. Évidemment, on lui reproche souvent d'être venu en cachette. Il faut admettre, voyez-vous, que sa haute position le rendait beaucoup plus vulnérable. Cependant, il est certain qu'il avait peur du « qu'en dira-t-on ? » Mais malgré tout, l'entretien qui a dû se prolonger pendant plusieurs heures a produit un effet très profond dans son cœur. Et comment ? Car, quelque temps plus tard, devant le Sanhédrin qui montrait une violente hostilité contre Jésus, il a pris position pour lui et il a dit « Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Saint Jean, chapitre 7, verset 51. Certainement, Nicodème devait être un disciple de Jésus en secret. Il participa à la descente de Jésus de la croix et il apporta des aromates pour embaumer son corps. Saint Jean, chapitre 19, verset 39. Il toucha donc le corps de Jésus et de ce fait, il n'avait pas le droit de participer à la Pâque juive. Nicodème montra par là combien il aimait vraiment Jésus. Comment Nicodème fut-il attiré par le message de Jésus-Christ ? Les détails ne nous sont pas donnés, mais certainement il était au courant des paroles et de tous les miracles du Sauveur, car il a dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » À ce moment-là, il reconnaît Jésus comme un prophète, un envoyé de Dieu, mais pas encore comme fils de Dieu. Or, voyez-vous, pour être vraiment sauvé, il faut accepter sa divinité, simplement dire, comme certaines religions, on ne veut pas les citer, on ne veut pas faire de la médisance, Ils disent qu'il est un prophète. Un prophète. Mais ce n'est pas seulement un prophète. C'est le Fils de Dieu. Il faut accepter sa divinité. Alors Jésus va le conduire dans le chemin du salut. Écoutez-le bien. Il a dit en vérité, je le dis et je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, par quelle autorité Jésus-Christ parlait-il ainsi? C'est de l'autorité qu'il possède, car il est le roi de ce royaume. Et voici ce qu'il veut dire à Nicodème. « Cher Nicodème, par ta naissance naturelle, tu as reçu la vie physique. Tu as aussi une vie religieuse. Tu aimes Dieu. Tu as une excellente position dans la religion. Tu as la considération de tes concitoyens. Mais tout cela ne compte absolument pas. Il faut que tu réalises une naissance spirituelle, une nouvelle naissance. Le Christ veut habiter dans ton cœur. Nicodème devait donc probablement être assez âgé en prenant toutes ces paroles de Jésus dans leur sens littéral. Alors il s'exclama, « Voyons, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Il n'avait encore rien compris. Nicodème connaissait le langage, on peut dire, tous les langages ecclésiatiques, mais il ne comprenait pas le langage spirituel. C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir un langage théologique fabuleux, mais ça suffira pas toujours. Jésus-Christ essaya de lui faire comprendre la nature de ce royaume. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Saint Jean, chapitre 3, verset 6. La chair, c'est donc notre corps qui doit retourner à la terre. On ne peut pas éviter cela. Le royaume de Dieu n'est pas terrestre, mais il est spirituel. Il te faut donc une naissance spirituelle. Et Jésus affirme à Nicodème, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Saint Jean, chapitre 3, verset 5. Pour naître de nouveau, il faut que nous naissions à deux choses, l'eau et l'Esprit Saint. Je retiens surtout la pensée de l'Esprit Saint, car Jésus dit un peu plus loin, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit Saint. Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Mais, qu'est-ce qui produit en nous le miracle de la nouvelle naissance? C'est la semence de la sainte parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous l'explique dans son épître. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante et permanente de Dieu. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Ce n'est donc pas la religion, quelle qu'elle soit, qui peut nous faire entrer dans le royaume des cieux. C'est uniquement la nouvelle naissance. Il est impossible à un homme qui n'est pas né de nouveau d'entrer dans le royaume de Dieu à cause de sa nature humaine, car ce qui est né de la chair est chair. Essayons donc un peu de comprendre tout cela. Sur la terre, il y a quatre règnes. Il y a le règne minéral, végétal, animal et humain. Pour que le règne humain prenne place dans le royaume de Dieu, il faut qu'il soit assimilé par le Saint-Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Saint Jean chapitre 3, verset 6. Donc voilà pourquoi il faut recevoir Christ en nous, la parole vivante, et ainsi de naître de nouveau. Il est impossible d'être sauvé et d'être né de nouveau, d'avoir le salut par Mohammed ou par Bouddha, etc. Impossible. Étant né de nouveau par Jésus-Christ, nous sommes dominés par le divin. Nous devenons héritiers avec Jésus-Christ, non pas avec Bouddha ou tous les autres. Et nous participons de sa nature. Ce miracle, car ça n'est vraiment un, s'est accompli par la semence incorruptible. Nous sommes nés sur la terre par une semence corruptible, mais nous avons été régénérés par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la sainte parole vivante et permanente de Dieu. Cette sainte parole ne peut se corrompre car elle vient de l'éternité et elle va vers l'éternité. Je voudrais conclure par une parole du psalmiste à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume chapitre 119, verset 89. Quand nous annonçons la sainte parole, nous traitons des valeurs éternelles et des résultats. Ces résultats deviennent éternels. Ce message peut donc faire naître Christ dans vos cœurs, dans nos cœurs. C'est un mystère caché dans les temps anciens, mais maintenant, dans la nouvelle dispensation, l'espérance de la foi, elle est une réalité. Et maintenant, quatrièmement, nous avons le deuxième mystère de Christ. Il est dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère tel que je viens de l'exposer en peu de mots. En les écoutant, vous, chers amis, vous pouvez vous représenter quel est le mystère de Christ. Je répète cela, c'est par révélation. En effet, un jour, j'ai reçu dans mon cœur et esprit la connaissance du mystère tel que je viens de vous l'exposer, ou peut-être parfois un peu maladroitement. Mais si vous les écoutez encore une fois attentivement, mes chers auditeurs et auditrices, vous pouvez vous représenter quel est vraiment le mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, vous le savez, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint, et cela aux apôtres, et à tous les prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens peuvent être co-héritiers en formant un même corps et en participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens, chapitre 3, versets 3 à 6. Donc, chers amis, prenons tout cela très au sérieux. Lorsque Dieu a créé la terre, il avait bien entendu un but déterminé. Mais par la désobéissance d'Adam, malheureusement, la race humaine a échappé au dessein primitif de Dieu. Et malgré cela, voyez-vous, Dieu désire un peuple à lui, car il n'arrive rien par hasard. Dieu a un plan tout à fait déterminé. Il a pensé à l'Église, et cela avant même la création du monde, et il l'a révélé aux apôtres, et spécialement à saint Paul, au temps marqué. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur n'était pas inconnu, pas du tout inconnu de Dieu, car il le savait, il vous a accepté. Et il veut que chacun ait sa place dans le corps de Christ. De même que dans un corps, chaque membre n'a pas la même fonction. Il en est de même dans l'Église. J'ai déjà fait remarquer que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas compris certaines choses. Par exemple, ce que était l'Église. Tandis que nous l'avons connu à travers la révélation des apôtres. Et maintenant, par la révélation qui a été donnée, les dominations et les autorités dans les lieux célestes peuvent connaître aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes donc, pour toutes ces puissances célestes, nous sommes un exemple d'amour sans limite de la part du Dieu vivant. Nous étions tombés dans la boue de ce monde et Dieu, dans sa sagesse, a réuni deux grâces infinies, le rachat de nos âmes et le pardon de nos péchés. Il a fait de nous l'épouse même de son Fils bien-aimé. Et il va aussi montrer comment, au travers de nous, il a vaincu Satan, car nous faisons partie de son dessein éternel. J'aimerais achever ma pensée par 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il faut donc admettre que ce corps a été bien divisé au cours des siècles et de nos jours également. Il y a des dénominations diverses absolument partout. Cependant, Dieu considère qu'il n'a qu'une seule Église. Voyez-vous, elle est son corps et il a revêtu ce corps du Saint-Esprit. Et c'est donc à nous, chers amis, de reconnaître combien grande est notre vocation et ce qu'il désire faire de nous, de toi, de moi, durant l'éternité. Nous entrerons dans la gloire éternelle. Il y a des gens religieux qui considèrent l'Église comme un bâtiment qui est fait de pierre, de ciment et de mortier. Or, pour Dieu, l'Église est bâtie avec des âmes vivantes. Je répète, pour Dieu, l'Église, elle est bâtie avec des âmes vivantes, pas seulement avec des pierres et du ciment. Donc, c'est donc important avec ceux qui sont nés de nouveau, avec tous ceux qui sont nés de nouveau, Dieu bâtit son Église. Et le bâtiment ne compte pas. C'est pas ça le plus important. C'est ce qu'il y a dedans le bâtiment qui compte. Si Christ est là, eh bien tout est là. Et nous, vous et moi, nous y sommes. Cinquièmement, nous avons le premier mystère de la piété. Il est dit dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, prêché aux gentils, donc les non-juifs, est cru dans tout le monde entier et élevé dans la gloire. » Il s'agit, dans ce passage, de Dieu manifesté en chair. Donc, Jésus-Christ est vraiment Dieu. Il est toujours resté 100% Dieu, tout en demeurant 100% homme. C'est ce que les Saintes Écritures appellent le mystère de la piété. À vrai dire, lorsque nous comprenons le pouvoir de la puissance de Dieu, il n'y a pas de mystère dans la vie terrestre de Jésus. Dieu est tout-puissant et il peut laisser de côté ses lois naturelles pour utiliser toute chose sur le plan surnaturel. Dieu a préparé un corps pour que son Fils bien-aimé puisse y habiter. Ce n'est pas là un mystère. Le mystère, c'est que le Dieu de toute éternité a créé un univers qui est immense. Sa grandeur dépasse notre intelligence. Le mystère, c'est que Dieu a pris place dans un corps humain. Il a vécu parmi les hommes environ 33 ans. Les hommes ont pu le voir, le toucher, l'entendre et même le contempler. C'est là le véritable mystère. Voyez-vous, la parole de Dieu a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle s'est incarnée dans un corps humain. Et cela dans la personne de Jésus-Christ. Il s'est manifesté plein de grâce et de vérité. Nous le voyons d'une façon très claire quand il exerce son ministère. Tous les pécheurs venaient à lui pour trouver la délivrance. Rappelez-vous, les malades venaient pour la guérison. Il était plein de grâce. Il était aussi la vérité. Et lorsque Jésus fut interrogé par Pilate, il dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Saint Jean, chapitre 18, versets 37 et 38. Et puis Saint Jean rappelle qu'il a contemplé la gloire du Père à un moment spécial. C'était sur la sainte montagne de Dieu. Saint Jean était monté avec Pierre et Jacques. Tout à coup, il fut transfiguré. Son visage est devenu plus resplendissant que le soleil et ses vêtements plus éclatants que la lumière. Dans Saint Jean, chapitre 1, verset 15, vous pouvez lire « Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Chers amis, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des manifestations de Dieu. Il est parlé plusieurs fois de l'ange de l'Éternel. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons Jésus-Christ et au travers de lui, nous avons l'union avec Dieu. Voyez-vous ? Par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu, son grand amour, sa compassion et sa bonté immense. Je voudrais attirer votre attention sur un autre verset de la Sainte Parole qui se trouve dans Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi, est-il dit, Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » À qui Jésus-Christ a-t-il parlé lorsqu'il est venu dans le monde ? Qui était ce quelqu'un ? C'était Dieu le Père. Jésus-Christ disait à Dieu qu'un corps lui avait été préparé. Il venait en prendre possession. Vous comprenez pourquoi il fut accompagné de la chorale angélique lorsqu'il a quitté le ciel. Les anges l'ont accompagné. Ils ont chanté ce fameux cantique « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agréé. » Saint-Luc, chapitre 2, verset 14. Les anges étaient donc là lorsque il a pris possession de son corps déjà préparé. Cela, évidemment, c'est un mystère. Il faut le reconnaître. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices et des holocaustes. Et tout cela n'était que des ombres des choses à venir. C'était, si vous voulez, le symbole du grand sacrifice de Jésus-Christ. En quittant la gloire du ciel, eh bien, Jésus savait qu'il devait mourir sur une croix. Il le savait. Il savait que ses mains et ses pieds seraient percés. Eh oui, c'est terrible, que son cœur serait brisé. Il le savait. Et tout cela était annoncé dans les prophètes, ou si vous voulez, plutôt dans les prophéties. Il venait donc pour accomplir la volonté de Dieu. Voyez-vous ? Essayons un peu de comprendre ce très grand mystère de la piété. Essayons. Jésus manifesté en chair, justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, prêché aux gentils, donc les non-juifs, accru dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. Maintenant, chers amis, nous avons sixièmement Le deuxième mystère de la piété. Nous arriverons donc gentiment à la fin. Il n'y a pas trop de problèmes à ce sujet-là. Le deuxième mystère de la piété. Alors, chers amis, la Bible nous dit, dans, je crois, 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Là, il est dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, prêché aux gentils, donc ça veut dire aux non-juifs, à toutes les nations, est cru dans le monde entier, élevé, il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Il est donc question dans ce passage de Jésus-Christ manifesté en chair. L'apôtre dit que ce mystère est grand. Effectivement, il est grand parce que celui qui l'a manifesté, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est merveilleux, voyez-vous. On a beaucoup discuté au sujet de la naissance surnaturelle de Jésus. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé de dire? Or, pour moi, je ne crois pas que le mystère réside uniquement dans le fait que Dieu a créé un corps autrement que par un moyen naturel. Dieu est souverain, absolument. Il est le créateur. Il peut ôter de votre corps un cancer, guérir un poumon qui est atteint de tuberculose. Il est le créateur et il est le réparateur des brèches. Il peut, s'il le veut, changer les lois naturelles, comme il l'a fait pour la naissance du Sauveur. Et pour nous, Jésus-Christ n'est pas le miracle du corps créé d'une façon surnaturelle, mais c'est le fait que dans le corps d'un petit enfant, dans le corps d'un être humain, Dieu est venu habiter. Que le Dieu créateur de l'univers ait pu se limiter dans un corps d'enfant, ça, c'est là le miracle, c'est là le mystère de la piété. Il est aussi vrai que Jésus était homme autant qu'il était Dieu. Il n'était pas 50% homme et 50% Dieu. Ces deux natures, la divine et l'humaine, étaient si intimement liées qu'on ne pouvait plus les distinguer. Personnellement, je crois qu'il a accompli certains miracles dans sa capacité de fils de Dieu. Quand il a par exemple ressuscité Lazare, marché sur les eaux, multiplier les pains et les poissons. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il était l'homme-Dieu. Jésus s'est donc incarné dans un corps humain pour montrer aux hommes ce qui était Dieu. Voyez-vous? Quand Philippe lui a demandé « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Saint Jean, chapitre 14, verset 9. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'était là un très grand mystère. Dieu avait donné à Jean-Baptiste une révélation. Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Saint Jean, chapitre 1, verset 33. Un jour, il a vu quelqu'un arriver sur les bords du Jourdain pendant qu'il baptisait. C'était Jésus. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, et là, Jean-Baptiste s'est écrié « C'est ici le Fils de Dieu ». Donc Jésus-Christ est venu ici-bas d'une façon surnaturelle. Il s'est incarné dans un corps humain. Et des manifestations célestes se sont produites durant le passage du Fils de Dieu ici-bas. D'abord, à sa naissance, les anges l'ont accompagné. L'un d'entre eux a annoncé aux bergers la venue du Sauveur et la multitude de l'armée céleste s'y est joint, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agréait. » Saint Luc, chapitre 2, verset 14. Ces anges ont été les témoins de l'incarnation du Seigneur. Que croyez-vous que qu'ont dû penser les créatures célestes quand elles ont vu Jésus jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits dans un désert? Et quand elles ont vu Satan l'attaquer avec rage, et dans un dernier assaut plein de fureur et de ruse, essayant de le faire dévier de son chemin? Que croyez-vous que durant ont dû penser les anges envoyés quand le diable a dû fuir? Je répète, que croyez-vous que ont dû penser les anges qui ont été envoyés? Et quand ils ont vu le diable, quand il fut vaincu et qu'il a dû fuir, que croyez-vous, vous, ce que ces anges ont dû penser? Dans Saint Matthieu, vous avez, au chapitre 4, verset 11, il est dit « Et voici, des anges sont venus auprès de Jésus pour le servir, selon la version Darby. On peut dire « Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Saint Matthieu, chapitre 4, verset 11. Et quand il arriva au paroxysme de la souffrance dans le jardin de Gethsémané, il voyait comme dans une vision funèbre trois croix qui ont été dressées sur le mont Golgotha. Il a vu tout cela. Au centre, c'était sa croix. Et il allait porter les péchés du monde entier. Et Dieu son Père n'allait pas pouvoir en supporter cette vue terrible. Alors il s'est mis à genoux, Christ, pour prier. Mais sa souffrance était si grande et son combat intérieur si intense que même des grumeaux de sang sont tombés de son front. Et il était étreint par l'angoisse. Et là, il s'est écrié, selon Saint Matthieu, chapitre 26, verset 39, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Chers auditeurs et auditrices, que croyez-vous que a dû penser l'ange venant du ciel pour le fortifier? Saint Luc 22, verset 43. Lui qui avait vu Jésus-Christ dans la gloire, fils unique du Dieu vivant, seconde personne de la Trinité, le voyant maintenant souffrir comme un humain misérable. Cependant, l'apôtre Pierre, qui avait accepté la divinité de Jésus et l'avait confessé dans le territoire de Philippe, il a été profondément étonné de ce que Jésus ne résistait pas aux méchants qui sont venus pour le saisir. Et il a été mu par un sentiment humain, ça se comprend. Et il a saisi son épée pour défendre son maître bien-aimé. Et Jésus lui ordonna de la remettre au fourreau et il ajouta ces paroles. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même, plus de 12 légions d'anges ?» Saint Matthieu, chapitre 26, verset 53. Quand on pense qu'un seul ange avait pu détruire une immense armée, lisez 1 Roi, chapitre 19, verset 35. On peut un peu imaginer ce que auraient pu faire 12 légions de ces créatures célestes. Et croyez-moi, il y en a qui seront étonnés à la fin des temps. Ce fut donc un ange que Dieu a envoyé le jour de la glorieuse résurrection. Ce fut lui qui a roulé la pierre pour montrer que le tombeau était vide. Et il a annoncé aux femmes tremblantes une nouvelle exhortation, une extraordinaire bonne nouvelle. Il leur a dit, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité comme il l'avait dit. Et venez, venez, voyez le lieu où il était couché. » Saint Matthieu, chapitre 28, verset 6. Il faut donc admettre que pour les Juifs, c'était quelque chose d'inouï de voir que les païens pouvaient devenir des enfants de Dieu. Ils croyaient fermement qu'ils étaient le peuple choisi, préféré de Dieu, et que toutes les promesses et les prophéties étaient uniquement pour eux. Uniquement, hein? Et quand ils ont vu que les païens pouvaient se convertir à l'évangile, être sauvés non par la loi, mais par la foi, et de recevoir le Saint-Esprit, ils ont été profondément surpris. Il y avait là quelque chose de merveilleux. Le Fils de Dieu participait à notre nature afin que nous, les païens, nous puissions devenir fils de Dieu. Nous constatons donc que Jésus a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux non-juifs et a été cru dans le monde entier. C'est ce message-là de Jésus-Christ que les apôtres annonçaient. Ils avaient la preuve de sa venue, de ses miracles, et le plus éclatant de tout, ils avaient là sa résurrection d'entre les morts. Ils affirmaient du reste qu'il était le Fils de Dieu. Jésus le leur avait affirmé. Il leur avait dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Saint Jean 14, verset 11. Et il disait encore dans Saint Jean chapitre 5, verset 36, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les disciples fournirent à leurs auditeurs les preuves de la divinité du Sauveur, oui, les preuves de sa résurrection. Jésus-Christ a quitté le ciel et la gloire comme Fils de Dieu. Il s'est dépouillé de cette gloire pour devenir Fils de l'homme, mais lorsqu'il est retourné au ciel, il est revenu comme le Fils de l'homme, aussi bien que comme Fils de Dieu. Il a donc apporté dans le ciel un corps humain glorifié et il l'a assis sur un trône et il est revêtu maintenant d'une double gloire. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu comme les prémices de ce que nous serons plus tard. J'aimerais revenir à ce que Jésus a dit à Philippe dans Saint Jean chapitre 14 verset 8 quand celui-ci lui a demandé « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Car Jésus parlait toujours de son Père à ses disciples. Et c'est alors que Jésus a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Sache que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Saint Jean 14, verset 9. Effectivement, Jésus est venu sur la terre comme Fils de Dieu et il est revenu ici-bas comme la sainte parole de Dieu. Il est donc la révélation de Dieu. Et il faut bien admettre que nous ne connaissons Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. Il est venu nous révéler le cœur de Dieu et nous connaissons son amour, sa puissance, ses attributs parce que Jésus-Christ nous les a montrés. Voyez-vous ? Donc, Jésus-Christ était venu sur la terre uniquement pour nous révéler Dieu dans sa parole, dans ses œuvres et dans son caractère. Dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 3, nous trouvons exactement la même pensée. Il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, autrefois, Dieu parla par les prophètes. Dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. Et personne ne peut rien ajouter à sa parole. C'est par Jésus-Christ qu'il parla. Il en fut de même quand il ordonna à la terre ferme d'émerger au-dessus des eaux ou qu'il a fait briller dans le ciel les luminaires. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit encore « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne ?» L'apôtre Jean a vu sa gloire. Et dans un passage de son Épître, il en fait allusion. « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » 1 Jean. Non, c'est l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, qu'il est donc écrit ce verset-là, que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. C'est donc dans Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Saint Jean doit se souvenir de la scène inoubliable de la transfiguration quand son visage est devenu, rappelez-vous, plus resplendissant que le soleil et ses vêtements plus brillants que la lumière. Et nous terminerons notre étude que aujourd'hui, tout ce qui est dans l'univers est soutenu par le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui dirige tout. Le soleil qui éclaire le monde, le cours des étoiles, tout cela est dans la main de Jésus-Christ. Il soutient spécialement les âmes qui sont sauvées. Car il a dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Personne. Saint Jean, chapitre 10, verset 28. Chères sœurs et chers frères, vous qui avez passé par bien des tribulations et bien des peines, oui, vous avez beaucoup souffert. Croyez-vous que Dieu puisse vous abandonner complètement? Ah non! Car vous êtes dans la main du Seigneur bien protégé. Je termine. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu, parfois sur la terre. Certains peuvent dire « mission accomplie ». Ainsi, Jésus-Christ a pu envoyer à son Père un message « mission accomplie ». Il a accompli tout ce qu'il fallait. Il a réglé une fois pour toutes la question de vos péchés, de mon péché. À vous maintenant de l'accepter de tout votre cœur. Amen. Nous n'avons plus le temps de prier, mais je vous demande simplement, vous pouvez prier vous-même une toute petite simple prière comme un enfant, je vous l'ai déjà dit, qui vient auprès de son papa ou de sa maman. À bientôt à nouveau, Dieu voulant, à demain matin. Au revoir, mes chers amis.